Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous partageons une bande dessinée, bien entendu, chez un éditeur dont nous ne parlons pas si souvent, La Boîte à Bulles. Donc, c'est l'occasion de mettre un petit peu en avant cet éditeur qui, en général, publie des ouvrages en format relativement restreint, plutôt roman graphique, hein, comme on dit, sur des sujets plutôt d'actualité, des sujets que je qualifierais aussi d'assez engagés. Alors là, on va prendre un peu de recul parce que, en fait, le sujet dont il est question remonte à quelques décennies, même s'il a des échos encore aujourd'hui. Quelques mots peut-être, Thierry, sur La Boîte à Bulles ?
C'est un de mes éditeurs indépendants. Alors, je ne sais pas si c'est une qualification bien pertinente ou, en tout cas, laudative dans mon esprit, des éditeurs indépendants que je préfère, avec des choix pertinents, renouvelés, un angle original pour traiter les sujets choisis, belle maquette. C'est toujours un plaisir de découvrir les nouveautés. Et j'avoue que quand j'ai vu la couverture de celui-ci, mon mauvais goût s'est réveillé. Ça m'a fait souvenir qu'il y a une trentaine d'années, j'avais acheté chez Brandwest une encyclopédie qui s'appelait The Cranios Monster. C'était une encyclopédie consacrée au cinéma Z. C'est vrai que parler de dragon de mousse, ça m'a fait penser à Godzilla et autres bébêtes en carton-pâte ou en mousse de polystyrène qui pullulaient dans les films de science-fiction au rabais. Et il en est question de cinéma et de cinéma de série Z, mais dans un contexte très particulier.
Voilà, on va y arriver. Effectivement, le titre de cet album, c'est « Le dictateur et le dragon de mousse », oui. Il ne s'agit pas d'une soirée mousse, hein. Pardonnez-moi pour cette petite allusion, je referme immédiatement la parenthèse. C'est quand même bien plus sérieux, si l'on peut dire que ça, quoique il y a un côté assez incroyable à ce récit. Alors, c'est un récit qui nous est proposé au dessin par Freeway, qui nous avait transporté au néolithique précédemment avec Tassili, une femme libre au néolithique précisément. Et puis, il y a au scénario un certain Fabien Tillon, très régulièrement en compagnie de Gaël Remise, qui lui est un auteur de chez nous,
oui,
de Haute-Savoie.
Oui, un auteur sonore de compter parmi nos amis annéciens, qui a donné de très jolis livres sur différents sujets. C'est une réunion d'auteurs de qualité pour un livre vraiment très singulier. Vous le disiez, c'est un livre qui est à la fois d'actualité et situé dans le temps. C'est une histoire vraie, presque vraie. C'est une histoire qui est commentée à la fin du livre par un dossier sur le cinéma de série Z, le cinéma asiatique.
Un dossier très complet d'ailleurs.
Très complet, hein. Très éclairant. Nous sommes à la fin des années 70. On nous parle d'un cinéaste que je ne connaissais absolument pas, un cinéaste sud-coréen qui s'appelle Shin Sang-ok.
Mais c'était une star, en tout cas, ça c'est
c'était
sûr.
Une star qui était mariée à une star, une comédienne très connue, Choi Eun-hee. Sa femme disparaît, hein, on dirait un titre à Hitchcock. Il se met en tête de la rechercher. Il commence à penser qu'elle a été enlevée par les services secrets nord-coréens. Et lui aussi va être enlevé par les services secrets nord-coréens. Et il va tomber dans les pattes des sbires d'un régime à la fois sinistre et ridicule. À l'image de toutes les dictatures, là, je ne suis pas en train d'adoucir le visage des dictatures. Une dictature, c'est toujours quelque chose de sinistre, de sanglant, de cruel, de haïssable. Je trouve qu'il y a souvent une part de grotesque et de ridicule. Le grand leader à l'époque en Corée du Nord, c'est quelqu'un qui adore le cinéma. Mais il adore le cinéma de tous les genres, hein, le cinéma comique, le cinéma d'aventure, mais surtout le cinéma de monstres. Comme les Japonais. Il veut relever le niveau du cinéma nord-coréen qui est quand même assez bas, même en film de monstres, avec des moyens limités, des ambitions démesurées. Et pour ça, il a eu l'idée de kidnapper des gens compétents. Donc, ces artistes sud-coréens se retrouvent prisonniers. Alors, dans un premier temps, ils sont traités comme des ennemis du peuple, donc torture, lavage de cerveau. Puis, dans un deuxième temps, on les traite comme des rois. Et ils auront tous les moyens pour réaliser et jouer dans des films, dans des super-productions nord-coréennes. Destiné à un public local ou à un public de pays amis, si tant est qu'on puisse parler de pays amis avec la Corée du Nord. On nage dans l'absurde, dans le n'importe quoi, dans le sinistre en même temps. C'est un éclairage sur la vie au quotidien dans un des pays les plus fermés, sinon le pays le plus fermé du monde. On est dans la tête d'un dictateur et de ses désirs fous, enfantins. C'est comme un enfant qui serait doté de la toute-puissance. Rien ne lui résiste, il peut réaliser tous ses souhaits. Et pour ça, il pratique l'enlèvement. Et on apprend à la fin du livre, dans ce dossier très bien fait, vous le disiez, que depuis les années 60, on estime le nombre de 100 000 personnes enlevées par les services secrets nord-coréens.
Alors, pas seulement des artistes, hein, mais aussi des scientifiques, des penseurs, etc.
Tous les corps de métier et toutes les nationalités. Il y a même des Françaises, des Français, des Françaises qui ont disparu. Parce que, pour la plupart, on ne sait pas ce que sont devenus ces gens. Ça laisse pantois.
Alors, c'est vrai que cette histoire, elle est à la fois tragicomique et en même temps totalement monstrueuse. Hein, et c'est pas un monstre de mousse, là, pour le coup. Même si, quand on voit cette lignée de dictateurs en Corée du Nord, ça peut prêter à sourire, mais ça fait aussi frémir, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, Kim Jong-un, ou Un, s'est allié avec un certain Poutine. Il se trouve que c'est son père qui est... le dictateur de cette époque et qui kidnappe des artistes, entre autres.
Oui. C'est terrifiant, cette lignée de fous sanguinaires. Ça fait réfléchir sur le fait qu'une telle situation ne peut pas durer par des raisons économiques, pour des raisons de simple corruption, d'organisation. J'ai cru comprendre aussi que le régime était alimenté financièrement par une espèce de racket à l'échelle mondiale sur les citoyens qui sont chargés, qui sont obligés d'envoyer de l'argent en Corée du Nord pour maintenir le régime à flot. Ce que ça nous raconte, c'est grotesque, ça fait frémir. Et en même temps, c'est tellement bien fait, je parle de la bande dessinée, avec notamment une mise en couleur et un dessin. En préparant l'émission, on hésitait entre plusieurs thèmes. C'est à la fois soigné, j'allais dire presque bâclé, mais comme il y a du cinéma de genre, le cinéma, le polar, l'aventure, le western, la SF, etc., c'est presque de la BD de genre, presque proche de ce qu'on pouvait trouver dans les fascicules qu'on trouvait dans les maisons de presse, dans les gares. Les Ambla, des choses comme ça. Il y a un côté vintage.
Années 60, oui.
Années 60, 70. C'est un charme fou. C'est presque beau.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une BD un peu artisanale, quelque part?
Oui, ça donne l'impression que c'était fait dans la cave. Non, j'exagère en disant ça. C'est très bien fait. Il y a un côté bricolage. Si on opposait la fabrique de dragons de Corée du Nord à celle des studios d'Hollywood, il y a un côté bricolage. Qu'on pourrait même aller jusqu'à dire sympathique, sauf que les motivations qui sont derrière tout ça sont tout sauf sympathiques.
On est dans la BD, donc grand public, plutôt adulte effectivement, mais BD de genre, enfin, on fait ainsi une forme d'écart pour permettre d'avoir accès à ce récit. Ce récit, donc je le redis, qui est quasiment entièrement vrai et qui nous amène à réaliser aussi que... Kim Jong-il n'était pas le seul à utiliser les artistes et les cinéastes en tant que dictateur.
Je crois que quasiment à son invention, le cinéma a été utilisé par les dictateurs, par les manipulateurs d'opinion. Pour Lénine, c'était un art majeur. Il avait compris que c'était alors au mieux un instrument d'éducation du peuple, au pire un instrument de propagande au sens de manipulation des masses. Parler de gens qui ont exalté les vertus nauséabondes du nazisme sous les ordres de Goebbels, le cinéma de Staline avec... dans le meilleur des cas, quand ils recrutaient Eisenstein pour tourner Alexandre Nevsky, ça allait, mais parfois c'était de la pure propagande sinistre et glaçante. Le cinéma a toujours été associé au divertissement de masse et à l'abrutissement des masses, au fait de manipuler les opinions et de façonner les croyances, les on-dit... un art du complot.
Cet album n'est pas manipulateur, lui, il ne s'agit pas d'être complotiste ici.
Par contre, on donne les clés pour comprendre et peut-être se poser des questions, parce qu'on s'est demandé s'il avait... Ça a été prétendu quand il est revenu, parce qu'il s'en est sorti. On ne racontera pas comment, lui et son épouse sont sortis de ce piège terrible. Quand il est revenu, on a prétendu qu'il était parti là-bas volontairement par sympathie envers le régime, etc. Donc, on nous donne les clés pour nous faire une opinion.
Et on est entre espionnage et polar au travers de ce
bouquin. C'est complètement ça. Il y a une atmosphère à la 007 qui est tout à fait réjouissante. Oui, un côté film d'action des années 60-70. J'ai pris beaucoup de plaisir, puis j'adore les monstres en mousse.
Et toute proportion gardée, je ne sais pas pourquoi, mais cet album me fait penser à un bon Blake et Mortimer.
Dommage, le scénario est pris.
Oui.
Mais c'est vrai que quand on pense au dernier Blake et Mortimer qui se déroule au moment de la guerre froide ou dans la Russie stalinienne, même certains le feront. Une fois de plus, la réalité dépasse la fiction et peut l'inspirer.
Voilà pour Le Dictateur et le Dragon de Mousse, paru à la boîte à bulles par Fabien Tillon et Freeway. Une lecture qui mérite vraiment le détour parce que ce n'est pas forcément un sujet qui est très souvent abordé, en particulier en bande dessinée. Et puis bon, voilà, d'aborder une réalité par ce biais-là, ça mérite quand même le détour. Merci beaucoup Thierry d'avoir partagé encore avec nous cette lecture. Et puis il y aura d'autres parutions, puisque nous sommes dans les parutions, dans l'actualité de la bande dessinée, qui vont vous être proposées au cours des semaines à venir, grâce à vous Thierry. Merci encore et à bientôt.